À voix nue, Bruno Meyerfeld, cette semaine avec
Sébastien Salgado, photographe, et avec ma femme, on plante beaucoup d'arbres.
Cinquième épisode, Lettre d'amour à la planète. Bonsoir Sébastien Salgado.
Bonsoir Bruno.
Nous voilà arrivés au cinquième et dernier épisode de cette série. Alors, comme nous l'avons vu hier, vous avez été marqué dans votre chair par vos voyages au Rwanda et au Congo. Et c'est un tournant dans votre vie puisque vous commencez alors à photographier la nature, les rivières, les océans, les montagnes, les animaux, puis les peuples indigènes. Cela va donner naissance à deux ouvrages, Genesis, sorti en 2012, puis Amazonie, 30 reportages menés chez 13 peuples indigènes de l'Amazonie brésilienne entre 2013 et 2019. Il semble que vous ayez alors été en rupture avec une certaine partie de l'humanité. Vous dites alors, les hommes, j'ai clos ce chapitre.
Mais voilà. Et il faut que je revienne un tout petit peu en arrière sur ce qu'on a parlé hier. Quand j'ai travaillé au Rwanda, quand j'ai travaillé dans l'ex-Yougoslavie, j'ai vu des choses terribles. J'étais un peu malade, j'étais pas bien. Mon médecin me dit d'arrêter parce que j'étais en train de mourir. Et on a arrêté. Avec Lélia, on a pris des vacances dans la région de Trancos, au sud de Bahia. On a trouvé un village très beau là-bas. On s'est installé pendant 3 mois pour prendre des repos, pour refaire ma santé. C'était le moment que mes parents avaient devenu vieux et ont pris la décision de nous passer la ferme de la famille. Je viens d'une famille de femmes. Je suis le seul fils d'une famille de 8 enfants. J'ai 7 sœurs. Et mes sœurs et mes parents ont pris la décision de passer Léla et moi à la ferme. Moi, je voulais abandonner complètement la photographie. Je ne voulais plus faire de photos. J'en avais marre de faire des photos, de toute cette souffrance. Je ne voulais plus. Et on a pris la décision de devenir fermier, de travailler la terre, faire de l'élevage. Et on retourne à cette terre. J'ai dit retourne parce que c'est là que j'étais élevé quand j'étais gamin. Et on commence. On commence à travailler un peu l'agriculture. On commence à planter de l'herbe pour le bétail. Et ça n'allait pas vraiment. C'était compliqué, une terre très fatiguée, très très fatiguée. Quand j'étais gosse, on n'avait plus de la moitié de cette ferme, que c'était dans la forêt tropicale, une forêt merveilleuse, une région merveilleuse. Et là, c'était pas bien. On rentre à Paris. On passe un certain temps et on revient au Brésil pour Noël. Quand on arrive là-bas, c'était une catastrophe que s'est passé. C'était le début de la saison des pluies. Mon père a fait faire une route qui allait sur une élévation. Les types avec les bulldozers avaient mis toute la terre du côté bas de la route. Ça venait une énorme pluie. Il a ramené charrier toute cette terre sur les rouilles, sur les très beau ruisseau qu'on avait. Les ruisseaux étaient complètement ensablés, complètement. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait que de la boue dedans. Lélia, elle a pleuré. C'était une catastrophe. Il a, Lélia, une décision. Il dit, Sébastien, on arrête cette connerie d'agriculture. On n'est pas agriculteur. Toi, tu es un photographe. Moi, je suis un directeur artistique, un architecte. On va planter la forêt qui était ici avant. On va commencer un projet de réhabilitation de la forêt qui était ici avant. Ah ben, je dis, mais c'est une grande idée, c'est très bien. On va parler à mon père. Mon père nous a engueulé, il nous trouvait complètement stupides parce que quand même, c'était une ferme assez grande. On pourrait avoir quelques centaines de têtes, quelques milliers de têtes de bétail. Et on a dit, non, on va faire une réhabilitation écologique. On ne savait pas qu'est-ce que c'était ça. On n'avait jamais planté de forêt. Et là, on cherche un ami à nous, un ingénieur de forêt, qui nous prépare pendant 6 mois un projet. Et on découvre que pour réhabiliter notre terre, il fallait planter un minimum de 2 millions et 500 000 arbres. Je dis, mais où est-ce qu'on va trouver d'argent pour ça? Je suis simplement un photographe, là, il est seulement un designer. Et là, je dis, on va chercher l'argent. Et je commence à tourner dans la planète. J'avais déjà un petit nom à la photographie. Les portes sont ouvertes. J'ai trouvé des ressources. Et on a commencé à planter la forêt. Et en plantant cette forêt, c'était étonnant. On a vu la vie revenir. Un arbre, même en étant un petit arbre, elle produit des feuilles, elle produit des fruits, elle produit des fleurs. Et tous les insectes, les oiseaux, et la vie a commencé à revenir. Et la vie est venue d'une manière tellement immense que la vie a revenu dans moi-même, que je me croyais mort en photographie. J'étais sollicité pendant que j'étais là-bas, parce que je suis ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. L'UNICEF m'a demandé de faire un livre sur la fin de la poliomyélite au monde. J'ai parti. J'étais en Somalie, j'étais en Inde, j'étais au Congo à nouveau, j'étais un peu partout. J'ai fait une série de photographies qu'on a publié ce livre, mais ça m'intéressait plus la photo vraiment. Et en travaillant là-bas, on voyait venir toute la vie est revenue dans moi. Et est venue à mon parti d'un moment, une envie fou de photographier à nouveau. Et c'est là que Leïla et moi, on a conçu un projet qu'on allait nous donner les plus grands cadeaux que quelqu'un pourrait se donner, d'aller voir la partie les plus pures, les plus pristines de la planète, les endroits protégés encore de la planète. Je pars à Washington, à Conservation International, c'est la plus grande organisation de conservation au monde. Et j'ai fait une recherche. J'ai fait une recherche ici à Paris, au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Et je découvre que 46% de la planète était encore comme au jour de Genesis. Et là, on conçut un projet qui, plus tard, on l'appelait Genesis, pour y aller. Dans 32 régions au pays de la planète, pendant 8 ans, une moyenne de 2 mois par reportage, et pendant une année, je faisais 4 reportages. Et pendant 8 ans, effectivement, j'ai fait 32 histoires qui a devenu un projet qu'on appelait Genesis.
Alors, Sébastien Salgado, pour Genesis, vous photographiez des animaux et vous nouez des liens avec certains d'entre eux. Des gorilles au Rwanda, mais aussi une baleine en Patagonie, je crois. Alors, je vous tends la photo de cette baleine que vous avez prise. J'aimerais que vous nous racontiez ce moment privilégié avec cette baleine.
On est devenu copains de cette baleine. Vous savez, elle s'appelle Right Whale. C'est la baleine franche australe. Pourquoi on l'appelait Right Whale? Parce que c'était la baleine juste pour être tuée. Elles étaient plus de 300 000 baleines au début du siècle dernier. Maintenant, elles sont à peu près 700 baleines. On les a éliminées, ces baleines. Et donc, en arrivant là-bas, elle était curieuse, comme toutes les baleines franches australes, et elle venait vers notre bateau. Elle avait un bébé, parce qu'elles viennent dans cette région de l'Argentine, c'est la péninsule Valdés en Argentine. Elles viennent avoir ces bébés là-bas. Et au début, elle ne permettait pas que son bébé approchait pas trop de nous. Après, elle-même, elle s'approchait d'une façon tellement incroyable que tous les matins qu'elle venait, je caressais son visage. J'ai passé la main à cette baleine. Elle était d'une sensibilité de peau tellement immense. Quand j'ai passé la main, je voyais à 20 mètres de moi sa queue qui tremblait entière, tu vois. Quelquefois, on avait un petit bateau écologique parce qu'il avait un moteur qui n'explosait pas dans l'eau, qu'il avait un pot d'échappement qui sortait de l'eau, donc faisait pas de bruit dans l'eau. À ce moment, elle prenait notre bateau entre sa tête et sa queue, et nous prenait dedans. Ah, c'était vraiment une copine. Et au moment, quelquefois qu'on partait, parce qu'il fallait un moment partir, elle tapait fortement sa queue dans l'eau. On revenait vers elle, elle revenait vers nous à nouveau, comme un chat, comme un chien, apprivoisé. On est devenus copains, grands copains. Il y a un groupe de scientifiques là-bas qui, les jours que j'ai parti, ils ont découvert que les bébés de cette baleine, c'était un mâle. Ils l'ont appelé Sébastien. Donc, le bébé de cette baleine, qu'on appelait Adélite, s'appelait Sébastien.
Il y a cette autre photo extraordinairement connue, Sébastien Salgado de Genesis. On y voit la patte ouverte, je crois, d'un iguane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le message de cette photo que vous avez prise, je crois, au Galapagos?
C'était mon premier reportage que je faisais pour Genesis. Je voulais aller à Galapagos. Je voulais comprendre ce que Darwin avait compris, tu vois. Et c'est le voyage de son beau bateau. Et qui a fini à Galapagos, c'est là qu'il a conçu la théorie d'évolution des espèces. Et j'ai bien lu tout Darwin. Et j'ai su aller exactement où Darwin avait été à Galapagos. Et j'ai vu des choses incroyables. J'ai participé à des choses incroyables. Et là, un jour, je vois une iguane. Les iguanes, c'est des animaux de terre qui ont dû un jour partir à Galapagos sur un bout de terre détaché du continent latino-américain et qui, 1200 kilomètres plus loin, ils ont atteint des îles. C'était Galapagos. Ils ont commencé à vivre à Galapagos. Mais comme Galapagos, il n'y a pas beaucoup de choses à manger, il n'y a pas de l'eau à boire, ils ont commencé à boire de l'eau de mer et à éliminer les sels. Ils ont développé une glande pour éliminer les sels. Ils ont appris à plonger et à manger les algues. C'est que c'est un animal à 100 fois. Et là, elle refroidit tellement le sang que quand elle quitte l'eau, il faut qu'elle se mette tout au soleil pour chauffer, sinon elle meurt. Elles ont appris tout ça et c'est là que Darwin a découvert tout ça. Et moi, j'étais enthousiaste autour de ces iguanes. Je vois cette beauté d'iguane doucement bougeant les pieds chaque millimètre, chaque centimètre qu'elle n'a pas peur de moi. Je puis m'approcher. Je mets mon pied. J'installe un objectif macro pour photographier cette patte de l'iguane. Parce que cette patte de l'iguane, c'est notre main. C'est exactement notre main. Tout ce qu'il y a dans cette patte, il y a dans ma main. Et à ce moment, j'ai compris que moi et l'iguane, on était cousins. Qu'on est partis de la même cellule pour former toutes les espèces vivantes de la planète. Tu vois? Et c'était pour moi une émotion de pouvoir photographier. Comme tu parlais tout à l'heure des gorilles de Rwanda. Je vis un pan de l'évolution se passer devant mon optique au Rwanda. J'ai photographié des gorilles et j'ai photographié à cette époque avec des appareils de moyen format pour avoir une meilleure qualité des négatifs. Avec des objectifs, elles sont plates devant. Donc c'est un miroir, un objectif plat. Tu se vois dedans. J'ai photographié, on ne pouvait pas trop approcher, les gens du parc national au Rwanda demandaient de ne pas trop approcher, mais les animaux pouvaient s'approcher de toi. Et un jeune mâle vient vers moi. Il était à 80 cm de moi, avec un appareil sur les pieds, j'ai le photographié, et lui se voit dans les miroirs. À un moment, il met son doigt dans sa bouche, il touche sa dent, j'ai la photo de lui au moment qu'il touche sa dent. Il enlève son doigt, il remet à nouveau, il remet à nouveau, il enlève, il découvre que c'est lui dans les miroirs. Il s'y voit dans les miroirs. Là, je me vis moi-même, mon espèce, quand un millier d'années en arrière, je suis allé boire de l'eau pour la première fois et j'ai vu mon image dans l'eau. Ah, c'était quelque chose de très émotionnant.
Sébastien, comme on l'a dit, entre 2013 et 2019, vous effectuez 30 reportages en Amazonie, cela donnera naissance à votre livre Amazingue. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer autant de temps dans la forêt, la jungle brésilienne?
Là, c'était déjà un peu militant. Parce que j'étais venu en Amazonie pour Genesis. Je connaissais l'Amazonie d'avant. La première fois que j'étais en Amazonie, c'était en 1984, où toute l'Amazonie y était. Tout y était là-bas. Et plus je venais en Amazonie, moins d'Amazonie il y avait. Et principalement, on grignote l'Amazonie de la périphérie vers le centre. On a détruit aujourd'hui à peu près 20% de toute l'Amazonie. Et donc, moi, en venant pour Genesis, j'ai vu qu'il fallait que je fasse, comme photographe, un constat de l'Amazonie, un travail photographique de la partie pristine de l'Amazonie pure, des 80% de cette Amazonie. J'ai photographié, bien sûr, l'Amazonie détruite aussi. J'ai créé une petite exposition, j'ai fait une donation à Fondation Kreisberg, ici à Paris, une petite exposition qui s'appelle « Blessures ». Mais dans ces corps de travail que j'ai présentés, qu'on a présenté comme livre, comme une exposition, je voulais montrer l'Amazonie pure, l'Amazonie qu'on doit ensemble nous battre pour la protéger. Et donc, j'ai pris la décision de faire un corps de travail. Je me rappelle très bien en 2013, quand j'ai fait la présentation de ces photographies au Musée de l'Environnement à Rio, j'ai quitté déjà Rio pour l'Amazonie, pour photographier l'Amazonie. Et j'ai fait 58 voyages en Amazonie. Je suis possiblement une des personnes qui connaît le plus l'Amazonie. Bien sûr qu'il y a des grands spécialistes qui connaissent des pans de l'Amazonie, des histoires de l'Amazonie 20 fois meilleures que moi, mais une connaissance d'ensemble très peu de gens ont. J'ai eu l'autorisation de l'armée brésilienne de voler avec eux dans leur petit avion, dans leur hélicoptère. Parce que l'Amazonie, l'armée brésilienne, c'est la seule institution brésilienne qui a une représentation sur toute l'Amazonie. Ils ont 23 quartiers dans l'Amazonie. Et là, ils m'ont pris avec eux et j'ai pu faire des parties, des photos de l'Amazonie que personne n'a pu faire avant. Les forêts, les montagnes amazoniennes, les photos, les images qu'on connaît de l'Amazonie, c'est un grand espace plat avec des grandes rivières qui serpentent au milieu. C'est vrai, une grande partie de l'Amazonie, c'est ça. Mais les plus grands massifs montagneux du Brésil sont en Amazonie. Et là, j'ai pu les photographier, j'ai pu m'approcher, j'ai pu faire une chose extrêmement importante qui s'est connu seulement récemment par un groupe de scientifiques brésiliens, qui sont les rivières volantes, les rivières aériennes. Une grande partie d'humidité qui va dans la planète, elle vient de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est le seul endroit au monde où il y a sa propre évaporation. Tous les systèmes de pluie de la planète entière viennent de l'évaporation des océans. L'Amazonie, chaque grand arbre, elle est capable de mettre en humidité, comme vapeur, dans l'atmosphère, à peu près 1200 litres d'eau par jour. Comme il y a des milliards et des milliards d'arbres, on a un système d'humidité incroyable. Et que ces humidités, ils montent sur des grands nuages qu'on appelle des cumulus nimbus, qui montent jusqu'à 10-12 000 mètres d'altitude, et que les vents transportent ces nuages partout au monde. Et donc, si on perd l'Amazonie, on perdra une chose essentielle pour la planète, qui ce sont une grande partie des courants d'humidité.
Sébastien Salgado, l'une des photos qui m'a le plus marqué dans votre série est celle de cette jeune femme, nue devant ce qui ressemble à une cuisine indigène avec un singe en train de rôtir. J'aimerais que vous nous décriviez, que vous nous expliquiez cette photo.
Cette photo, elle est terrible. En bas, on dirait des êtres torturés. Parce que c'est des singes, les corps, c'est exactement comme les nôtres. Et la partie du haut, c'est une jeune fille d'une beauté incroyable, vraiment comme une princesse. Et j'ai vécu avec ces Indiens, les Zoé. Les Zoé, c'est un groupe d'Indiens incroyables qui vivent au nord de la ville de Santarém, sur le fleuve Amazon. Ils sont à peu près à 300 km de là. Les jésuites les ont vus au XVIIe siècle. Ils ont décrit ces Indiens qui avaient un bout de bois sur la lèvre inférieure. Mais ces Indiens ont disparu. On croyait que c'était une fiction que les jésuites avaient décrit. Il y en a à peu près une vingtaine d'années, on les a trouvés à peu près à 300 km de là. Donc, ils ont migré Après, on les a perdus et finalement, c'était pas une fable. J'ai travaillé avec ces Indiens, avec un groupe, avec une femme fabuleuse, Anna Sueli Arruda, une des plus grandes linguistes. Elle étudie la langue de ces groupes, que c'est un petit groupe d'à peu près 400 personnes, et que si elle transforme cette langue en langage écrit, on va perdre cette langue. Et donc, elle étudiait depuis longtemps, elle est venue comme traductrice pour moi. Et on a eu un privilège. La FUNAI, la Fondation Nationale des Indiens, nous a donné l'autorisation pour la première fois de visiter les 8 villages de ce peuple. J'étais le premier blanc avec Anne Soueli qui ont pu visiter les 8 villages. Et Anne Soueli, elle était très heureuse parce qu'elle a pu constater une série de fables, d'histoires, de racontats qu'elle a pu aller voir dans les villages et faire. Mais pour moi, c'était quelque chose de sublime, une grande leçon que j'ai eue. Anne Soueli m'a dit, Sébastien, le corps linguistique de ces Indiens, il est Tupi-Guarani, des groupes qui viennent de l'état de Bahia. Et par le temps qu'ils ont dépensé pour faire 300 km après que les jésuites les ont rencontrés il y a 400 ans, on calcule qu'ils ont dû mettre à peu près 3000 ans pour venir de la côte atlantique et pour être là pour que les jésuites les rencontrent. Et donc, là, on comprend comment on a fait l'occupation de l'Amérique quand, il y a à peu près 16 000, 20 000 ans, à la dernière glaciation, le détroit de Bering a devenu un pont et qu'on a rentré pour la première fois en Amérique à partir de l'Asie et qu'on a dû descendre toute l'Amérique. Certainement, ce groupe a dû descendre jusqu'en Patagonie et après, en venir remontant la côte atlantique jusqu'à Bahia pour pénétrer dans la forêt, pour sortir en Amazonie. Et je crois que c'est fabuleux. Ça, c'est la chose qui m'a plus touché quand je suis venu travailler aux communautés indigènes de l'Amazonie, c'est de me rencontrer moi-même à ces communautés. Et que c'est fabuleux qu'en rencontrant là-bas, je rencontre dans ces communautés indigènes la préhistoire de l'humanité qu'elle est là, vivante dans l'Amazonie.
Alors Sébastien Salgado, vous vous êtes engagé très concrètement pour l'environnement. Il a tenu une question que je suis forcé de vous poser. Depuis des années déjà, vous avez financé vos voyages à travers des partenariats avec des grandes entreprises. Et parmi elles, il y a le géant minier brésilien Vale, une entreprise qui est accusée par plusieurs ONG de participer à la dévastation de l'environnement au Brésil et notamment des cours d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cet engagement et ce partenariat ?
C'est la manière qu'on les regarde. Si on les regarde d'ici, vers le moment qu'on a eu le partenariat, oui. Mais si on regarde le moment qu'on a eu le partenariat, non. Parce que Vale, c'était une entreprise de l'État brésilien. Et c'était une entreprise de ma vallée. Vale, parce que c'est Vale do Rio Doce, là où je suis né. Les pères de ma femme, les pères de Lélien, il travaillait à Vale toute sa vie. C'est lui qui payait les salaires de tous les travailleurs. À une époque, début des années 50, qu'on n'avait pas encore un système bancaire au Brésil, il partait de la ville de Vitória, à la côte, où les trains de Vale arrivaient avec les minéraux de fer pour être exportés. On remplissait un wagon d'argent. Et lui montait dans toutes les gares pendant 850 km. En train de payer les salaires que les gens se mettaient en queue et tout. Ma sœur, qui aujourd'hui a 94 ans, elle était directrice de l'école de Vale dans ma ville pendant toute sa vie. Elle était prof, après est devenue directrice. Donc Vale, c'était une entreprise de chez nous. Et donc Vale, c'était très proche. Quand on a commencé à travailler avec Vale, on a commencé à travailler à Instituto Terra. Les premiers 500 000 arbres qu'on a plantés à Instituto Terra, c'était un cadeau de Vale. Parce qu'ils ont une énorme pépinière, parce qu'ils font des dégâts sur les mines, et le gouvernement les oblige à replanter des arbres là où ils ont fait des dégâts. Donc ils ont une énorme pépinière, ils nous ont donné. Donc on était très proche de Vale. Vale a participé avec moi sur le projet Genesis au début, mais à partir du moment, Vale à rentrer dans les marchés. Le nom des vallées ne s'appelait pas vallée qu'on a commencé à travailler, ça s'appelait Compagnie Valle do Rio Doce. Quand elle est passée à vallée, elle est devenue une compagnie de marché. Elle est devenue la deuxième plus grande compagnie minière du monde. Elle a acheté la plus grande compagnie de minière au Canada. C'est devenu un monstre. Et à partir de là, Vallée a commencé à agir comme un prédateur, un grand prédateur. À tel point qu'aujourd'hui, on a une institution environnementale dans la vallée. Vallée veut travailler avec nous. Nous, on ne travaille plus avec Vallée parce qu'elle est devenue un prédateur. Donc, on ne peut pas juger le présent avec le passé. Il faut les prendre comme il était à l'époque.
Sébastien Salgado, une dernière question. Est-ce qu'il y a un voyage que vous n'avez pas encore réalisé, vous qui avez parcouru toute la planète, et que vous souhaiteriez faire dans votre grand âge?
Ah, il y a plein de voyages. Plein de voyages que je souhaiterais faire. J'ai un rêve de faire une histoire que je ne ferai pas, parce que je n'ai plus l'âge de le faire. Vous savez, j'adore les gammes de gris dans la photographie. Quand tu regardes une photographie noir et blanc, elle n'a pas de noir, elle n'a pas de blanc. Ou c'est des gris plus foncés, ou c'est des gris très clairs qui font le blanc, mais c'est des gris encore. Et je voulais faire un voyage dans le monde à la recherche des gris suprêmes. Je voulais faire les plus beaux paysages du monde, dans les endroits les plus beaux que j'étais. J'étais dans des endroits incroyables. Je voulais faire un voyage que j'ai fait à pied au nord de l'Éthiopie. J'ai parti de Lalibela. Je suis allé au parc national de Siemens à pied. J'ai fait une ligne droite marquée sur le GPS, 850 km à pied sur les montagnes, à pied parce qu'il n'y a pas de route. J'ai mis 55 jours pour faire ce voyage à pied. C'était une expédition merveilleuse. Je voulais le faire à nouveau, seulement pour capturer la beauté des paysages que j'ai vus là-bas. Je voulais aller au nord de l'Irlande, à l'est de l'Irlande, à l'est de l'Écosse. Je voulais retourner en Patagonie, je voulais retourner dans les îles Sandwich du Sud, en Antarctique, dans ces endroits merveilleux, seulement à recherche des gris suprêmes.
Merci, Sébastien Salgado.
Obrigado.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Laurent Macchetti, réalisation Guillaume Baldi, une série de Bruno Meyerfeld, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.